Oui, donc je disais qu'on éprouve le sentiment d'une crise de la transmission, qui vient donc de ce que l'on appelle l'individualisme de notre époque, et puis qui vient aussi de ce que nous connaissons de telles accélérations technologiques, que chaque accélération laisse des gens au bord de la route. Et la technique vit apparemment de rupture de transmission, sans cesse. Et alors ceci nous conduit à l'entreprise, parce que l'entreprise, il semble paradoxal de lui demander de répondre de la question de la transmission, puisque l'entreprise semble soumise à l'injonction du court terme, de la rentabilité à court terme, semble plus qu'un autre lieu soumise à l'injonction de l'innovation permanente qui supposerait qu'il y a donc, comme je le disais, des laissés pour compte, des secteurs de l'entreprise que personne ne peut comprendre parce que les chercheurs ils font des choses que personne d'autre que ne comprenne, et d'ailleurs eux-mêmes parfois on se demande s'ils le comprennent. Et or l'entreprise, autant que tous les autres lieux de la société et d'une manière singulière, contribue au tissu de notre société. Si on compare la société à un tissu, cette société connaît des déchirures, des coups de ciseaux, et donc de nombreux lieux s'efforcent de ravauder, comme on disait, ce tissu déchiré, et l'entreprise peut être un lieu de solidarité, peut être un lieu de rencontre, doit être un lieu de rencontre. Alors c'est ce qui nous a conduit donc à nous poser la question de la transmission. Alors pour cette question de la transmission, je suis très heureux d'avoir pu inviter et qu'ils aient accepté deux amis du Collège supérieur et des amis à titre personnel. Donc Jérôme Varnier est directeur d'une agence du consulting en direction des ressources humaines. Et il est par ailleurs spécialisé dans le secteur de l'e-learning, qui pose des questions sur la transmission, rien que le mot, pose déjà lui-même des questions sur la transmission, et puis est-ce que l'e-learning est un autre mode de transmission, est-ce que cela remet en question d'autres formes d'apprentissage, la salle de classe avec sa poussière de craie, était d'une autre manière un lieu de transmission. D'autre part, Jérôme enseigne à l'ESSEC, en ressources humaines. Pierre Milani devait être là ce soir, parce que c'est non seulement un ami, mais pire encore, un ancien élève, et que moi je l'ai connu comme philosophe, et que de philosophe, il est passé à l'ESCP et à EAP, et que il a ensuite donc repris l'entreprise familiale. Et c'est un exemple tout à fait essentiel de la transmission que celui de l'entreprise familiale dont il témoignera ici. Je vais donc leur laisser la parole.
Merci Jean-Noël pour la présentation, merci pour votre invitation. Alors je suis très heureux de pouvoir témoigner devant vous un exemple d'entreprise où il se passe de la transmission. Je pense que Danielu, c'est un bon exemple. On est un cas qui doit être classique, puisque il me semble que 80% des entreprises en France sont familiales et que donc elles ont toutes le problème de la transmission à gérer. Donc en l'occurrence, l'entreprise a été créée par mon père voici 30 ans. Moi, je suis donc successeur. Et j'ai la responsabilité de pérenniser l'entreprise, de développer l'activité. Donc de ce point de vue-là, la transition est en cours, mais elle s'arrête pas là. Elle concerne également tous les acteurs de l'entreprise. Elle concerne donc le savoir-faire dans l'entreprise dans son ensemble. Donc je voudrais d'abord vous faire une petite, je vais essayer d'aller vite, un petit historique de la transmission chez Danielu, sur mon parcours personnel aussi, pour que vous sachiez qui est Danielu, qui je suis. Donc Danielu, c'est l'initiative, il y a une trentaine d'années, de mon père, qui était dans une situation difficile, il était au chômage. Donc moi, j'avais 10 ans, j'étais en tant qu'enfant, j'ai vécu le démarrage de l'entreprise. Donc je pense que c'est quelque chose qui marque. Enfin, mon fils aujourd'hui a 10 ans, donc je peux me représenter ce que c'était. Donc c'est le démarrage à zéro d'une entreprise industrielle dans le domaine du bâtiment et de la métallurgie. Donc je pense que c'est assez difficile dans ces domaines-là de créer une entreprise, et à mes yeux c'est un véritable exploit. L'entreprise a eu quelques difficultés à démarrer, il y a eu même si elle est démarrée toujours dans le bon sens, elle a mis 6 ans pour recruter un premier salarié. Et puis dès le départ, c'était une entreprise qui avait un travail de production industrielle. C'est pas simplement une entreprise, un bureau de vente ou un représentant de commerce. Il y avait des machines rudimentaires dans un garage. Il y avait une seule personne pour tout faire, puisqu'il fallait faire la prospection, accueillir au téléphone, mettre au point les produits, traiter les commandes, faire la production, livrer parfois. Et je peux vous dire que dans le domaine de la fabrication métallique pour le bâtiment, c'est très dur. Je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent relever ce défi. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, je me suis rendu compte de la valeur de ce démarrage d'activité. Et ça m'a donné l'envie de poursuivre, de reprendre le flambeau, comme on dit. Donc, après avoir fait de la philosophie avec Jean-Noël, j'ai orienté mes études vers la gestion. Et puis, j'ai eu quelques expériences à l'étranger. Je suis rentré dans l'entreprise familiale après. Et j'y suis depuis 15 ans. Donc, je venais d'horizons totalement différents quand je suis rentré dans l'entreprise. Donc, il a fallu apprendre le métier, il a fallu comprendre les produits, sont assez techniques. Il a fallu s'intégrer aussi dans une équipe, comme quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur, se faire accepter. Et on est en face d'un créateur d'entreprise qui a tout développé à partir de zéro, donc avec une forte personnalité, évidemment, très attaché à son entreprise. Bon, il a fallu trouver sa place et puis montrer qu'on pouvait développer, qu'on pouvait contribuer au développement de l'entreprise. Donc à mon entrée, l'entreprise comptait un peu moins de 20 salariés. Aujourd'hui, l'entreprise est beaucoup plus diversifiée. On est 114. On a 2 unités de production à Lyon et à Paris. Et on a une filiale à Francfort, donc sur l'Allemagne. Donc voilà pour les grandes lignes du parcours et l'historique de la transmission chez Daniel. Alors, une petite présentation de Daniel Lu, parce que je ne sais pas si vous êtes allé sur le site internet pour voir un peu ce qu'on fabrique, qui est Daniel Lu. Alors sommairement, Daniel Lu est parti d'une idée, c'est la protection des relevés d'étanchéité en toiture terrasse par des profilés aluminium, donc ce qu'on appelle les solins. Alors, sur les toitures terrasses, c'est souvent sur les relevés d'étanchéité qu'il y a des fuites. Alors, si vous avez des fuites sur une toiture terrasse, c'est que vous n'avez probablement pas le système Daniel Lu. Voilà, donc depuis l'origine, Daniel Lu, c'est un synonyme de performance, de qualité, de pratique pour les professionnels, facile à mettre en œuvre, ça allonge la durée de vie des bâtiments. Donc c'est à partir de cette expertise de l'étanchéité que Daniel Lu s'est diversifié progressivement dans les métiers de la façade, toujours des profilés aluminium pour les balcons, les fenêtres, des carrelages, des profilés pour la protection des ravalements. Et puis ensuite, on a développé des garde-corps de sécurité contre la chute de toiture. On lance actuellement des garde-corps de toiture terrasse accessibles, de balcon. Et enfin, Daniel Lu est devenu concepteur de structures support pour les toitures terrasses, des supports de modules photovoltaïques, des supports de capteurs solaires thermiques et d'autres machineries qu'on peut mettre sur les toitures terrasses. Donc en résumé, Daniel Lu propose aujourd'hui des systèmes performants et innovants en aluminium aux professionnels du bâtiment, dans les domaines de l'étanchéité, la façade, la sécurité au travail, le solaire. Donc comme à l'origine, aujourd'hui, ce qui caractérise Daniel Lu, c'est surtout sa capacité de proposer de nouveaux produits, d'innover, de concevoir. C'est son indépendance dans la conception, justement, dans le développement des produits, dans la production aussi, et dans la commercialisation de ces produits. Donc Daniel Lu a eu plusieurs prix de l'innovation dans le bâtiment, une médaille d'or à Batimat. On a eu cette année le prix des énergies renouvelables au salon des ENR à Lyon, donc salon national, pour un système qui s'appelle Elial Intégration, qui est une solution complète de toiture terrasse qui permet de faire l'étanchéité, l'isolation et la production d'énergie au sens de d'intégrer au bâti, c'est-à-dire le meilleur prix de rachat par EDF. Donc voilà, pour planter un peu le décor de Danielu. Donc ce qui fait aussi la caractéristique de Danielu, c'est que la fabrication est entièrement en interne, donc on maîtrise ainsi la qualité, les délais, et on a une unité de traitement de surface, des profilés, qui nous permet de répondre aux besoins des architectes en termes de couleurs et d'esthétique produit. Donc ça, c'est pour planter le décor de Danielu, pour que vous sachiez de qui on parle. Maintenant, je me suis posé quelques questions, parce qu'il faut revenir à la question de la transmission, sur pourquoi transmettre. Alors déjà, dans l'entreprise, donc c'est quand même notre patrimoine. En l'occurrence, c'est une source de revenus à titre personnel, c'est aussi une source de revenus pour l'État, pour les collectivités locales. Donc je pense que la survie des entreprises aussi dépend d'une bonne transmission. Donc si on veut, c'est une question de santé tout simplement, la transmission c'est tout simplement un enjeu majeur pour l'entreprise. D'autre part, il y a la question de la pérennité du savoir-faire. Donc, ce qu'on dit toujours chez Danielu, la qualité du personnel, c'est ça qui fait le développement de l'entreprise. Du dirigeant à l'ouvrier, tout le monde est indispensable. Et qu'est-ce qui caractérise le personnel? C'est son savoir-faire, sa connaissance de l'entreprise, son esprit d'équipe. Et pourtant, ce personnel, ce sont des relations contractuelles avec l'entreprise. Donc, ce sont des gens qui ont des contrats, ils peuvent partir à la retraite. Et là aussi, pour que l'entreprise ait une pérennité, il y a un enjeu de transmission. Alors, que transmettre? Pour qu'il y ait transmission, il faut bien transmettre quelque chose. Donc, comme toute entreprise, nous avons un métier. Et justement, c'est ce problème de ce métier qu'on apprend souvent sur le tas. Je suis rentré chez Danielu. J'ai fait un an de travail en production, connaître les différentes personnes dans l'entreprise, savoir à quoi servent les produits. C'est comme ça qu'on apprend. Après, notre savoir-faire, c'est surtout une capacité à se développer, une capacité à innover. C'est une capacité à produire de grandes quantités de produits pour un nombre très diversifié de clients. Il y a des milliers de professionnels dans le bâtiment avec plein de besoins divers et variés. C'est de la réalisation sur mesure. Toutes les commandes qu'on livre sont souvent livrées sur mesure. Donc ça fait partie d'un savoir-faire. Et en plus, il n'y a pas que le produit, il y a un service qu'on a pu développer qui est un service de métrage, de préconisation du bon produit et un service également d'assistance à la pose. Alors, comment acquiert-on ce savoir-faire? Comme je disais, c'est en travaillant dans l'entreprise, en connaissant les personnes, en connaissant la production. Et dans le métier du bâtiment et de la métallurgie en particulier, c'est un métier très complexe. On n'a jamais fini d'apprendre. Donc voilà ce qu'il y a à transmettre. En tout cas, chez Danielu, il y a du boulot. Alors, à qui transmettre? C'est pour... Toujours du point de vue de Danielu, on est dans une entreprise familiale. Alors, dans des petites entreprises, il me semble que de père en fils, c'est un peu le côté artisanal, on peut transmettre facilement, le fils reprend, etc., tout se passe bien. Quand on travaille dans des entreprises avec un petit peu plus de personnel, en l'occurrence chez nous, on est plus de 110, la transmission, elle doit se faire entre les salariés, elle doit donc être organisée. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect contractuel des relations avec les salariés, donc il y a le problème des gens qui partent, la volatilité des gens, ça crée un risque de perte de savoir-faire. Et donc dès lors, je pense que la force d'une entreprise réside dans sa capacité à retenir ses salariés et donc son savoir-faire. Donc ça constitue un double défi permanent, en tout cas nous on vit comme ça, c'est savoir recruter les personnes de valeur qui vont rester, donc identifier les bonnes personnes qui vont rester chez Danielu, et puis savoir fidéliser les salariés en place et les faire évoluer. Donc, de notre point de vue, plus le personnel est fidélisé, plus la transmission se fait dans de bonnes conditions. Et inversement, un mauvais recrutement peut avoir des conséquences catastrophiques, comme la perte de personnel. Alors, la question du jour, c'était comment faire de l'entreprise un lieu de transmission. Je vous propose quelques pistes de celles qu'on pratique, en tout cas chez Danielu. Donc la première des choses, c'est qu'on a une vision long terme. Donc on pense que la capacité du dirigeant à avoir une vision long terme, c'est un élément sécurisant pour l'entreprise. Donc ça permet au personnel de travailler sereinement. Par exemple, chez Danielu, tout le monde sait que l'objectif du chef d'entreprise, c'est pas de revendre son entreprise, mais c'est de la transmettre. Donc les gens savent qu'ils ne sont pas dans une organisation qui vise que le profit, en vue de faire de plus-value à la revente d'une entreprise, qui arrive quand même assez fréquemment, et qui engendre des départs. Mais le chef d'entreprise a une vision qui dépasse sa propre génération. C'est ce qui permet aussi aux salariés de sentir qu'ils ont un avenir. C'est un impact sur l'ambiance du travail, c'est un impact sur la manière dont on investit industriellement dans l'immobilier. Et là, je pense qu'il y a une grosse différence à faire entre vendre une entreprise, qui est quand même une forme de désengagement, et transmettre, qui est justement le contraire, c'est-à-dire rester engagé, responsable aux côtés d'un successeur, avec le souci que l'entreprise tourne, parce que ça reste quand même une source de revenus. Et puis, je voudrais parler aussi, dans notre cas particulier, il me semble que c'est assez caractéristique, il me semble une entreprise familiale, ça a des atouts, et ça représente aussi un défi en termes de transmission. L'entreprise familiale, elle permet, à notre avis, de pérenniser l'entreprise, parce que c'est le contraire de l'entreprise spéculative. Elle s'inscrit dans le temps, elle met l'accent sur justement la transmission du savoir-faire. Une entreprise qui n'est gérée que financièrement, elle perd un petit peu son âme. Si le seul objectif c'est de faire c'est la satisfaction financière des actionnaires et pas s'intéresser au produit lui-même, c'est aussi une source de perte de performance. On serait à ce moment-là dans l'exploitation maximale d'un potentiel produit donné, mais pas dans une réflexion long terme sur l'évolution d'un produit. Et donc, je pense aussi, ça c'est une note personnelle, que la relation entre un transmetteur et un successeur dans l'entreprise, en ce qui nous concerne, ça a été un vrai défi, parce que finalement, le transmetteur, il garde une forme de pouvoir, mais il faut aussi qu'il sache laisser de l'autonomie, et le successeur, ainsi, il faut qu'il puisse prendre progressivement de la confiance, et là, je pense que je parle au nom de tous ceux qui reprennent les entreprises, c'est pas toujours facile, et il faut qu'il puisse donc être dans de bonnes conditions pour poursuivre le développement de l'entreprise. Alors, toujours comme condition, un autre point, comment faire de l'entreprise un lieu de transmission, à part la vision long terme, il y a aussi un élément qui me paraît essentiel, c'est le projet et la passion du produit. Parce que ce qui dynamise, en tout cas chez Danielu, l'entreprise, c'est la concentration qu'on a sur nos produits, la qualité des produits des produits proposés. C'est aussi de savoir où on va, c'est-à-dire d'indiquer aux gens quelles sont les directions qu'on prend, qu'ils aient une perspective. Et puis c'est aussi d'être dans une entreprise qui bouge, dans une entreprise en mouvement. Donc ça, c'est ce qui fait, à notre avis, la fierté du personnel, travailler dans une entreprise en mouvement, sentir qu'on appartient à une communauté qui est performante. Donc, évidemment, à quoi sert une entreprise ? C'est d'abord de créer des produits, du service. Donc, les produits de l'entreprise, les projets de l'entreprise doivent être centrés sur ces produits, et ces produits doivent permettre d'améliorer la vie des gens, de faciliter la mise en œuvre, etc. Et ça doit être vraiment le défi permanent de l'entreprise. Donc, nos clients, on voit encore récemment, on était sur un salon à Batimat, les clients faisaient cette réflexion. On vient sur votre stand parce que on sait qu'il y aura du nouveau et on est fidèle parce que c'est une entreprise qui bouge. Donc c'est ce qui fait l'enthousiasme en fait aussi des clients de voir que l'entreprise bouge. Alors justement, le rôle du chef d'entreprise, à mon avis, c'est d'animer cette passion dans l'entreprise autour du produit, autour de l'amélioration des produits, autour de créer des produits encore plus performants, plus pratiques, de trouver des solutions techniques nouvelles et innovantes. Et donc, c'est un petit exemple, mais chez Danielu, on se réunit une fois par mois à l'occasion d'un comité technique, où on s'oblige à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire en termes d'amélioration produit, nouveaux produits. Donc ensuite, un autre point concernant comment faire une entreprise un lot de transmission. Je voudrais signaler un point qui me paraît assez important, c'est que paradoxalement, notre savoir-faire, en fait, ça consiste justement à savoir remettre en cause notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'on est dans un processus d'innovation, et comme je dis, c'est ce qui, à mon avis, permet d'assurer une pérennité de l'entreprise, parce que les produits sont menacés par la concurrence, sont menacés par des changements normatifs, etc. Or, dans l'innovation, il y a justement des ruptures technologiques, c'est ce qui remet en permanence en cause les savoir-faire, ça remet en permanence en cause l'organisation, la manière de vendre le produit, de le produire. Donc, il faut sans cesse s'adapter. Il y a des adaptations nécessaires à la nouveauté dans l'entreprise qui sont souvent les sources de crise. J'ai un petit exemple aujourd'hui avec le développement du service expert, où on est en train d'essayer de développer l'entreprise à l'exportation, et ça suscite des petites crises d'organisation. Et donc justement, la capacité d'innover, elle vient d'une attention permanente à la satisfaction du client. Donc une des règles chez nous, c'est les réclamations. Dès qu'on a une réclamation, ça doit être traité sous 48 heures. Il faut qu'il y ait une action de fond derrière. C'est la mise en place de veilles, c'est-à-dire repérer les orientations du marché, les besoins exprimés des clients, les évolutions des normes, et le souci du détail, la finition des produits, la performance. Et même si tout ne réussit pas dans la réalisation, le développement de nouveaux produits, ça apporte justement de nouveaux savoir-faire et d'autres pistes d'innovation par la suite. Donc c'est toute une culture du savoir se remettre en cause qui est aussi partie intégrante de ce qu'il faut transmettre dans l'entreprise. Donc la transmission, c'est pas simplement transmettre des choses qu'on sait déjà faire, mais c'est aussi savoir se remettre en cause. Et alors, un point supplémentaire concernant comment faire de l'entreprise un lieu de transmission, c'est la partie communication. Alors, il y a une difficulté à partir du moment où un chef d'entreprise travaille plus tout à fait tout seul. Un chef d'entreprise qui travaille seul, il n'a pas de souci de cohésion. C'est ce qu'on avait au début de Daniel Lu, personne cumule toutes les fonctions, on décide rapidement. Dans une petite société, la communication peut être réactive, rapide, les décisions sont rapides également. Mais alors, plus la société avance, plus les tâches commencent à se segmenter, plus le traitement est potentiellement long, les procédures deviennent complexes, il y a des sources de conflits, et plus il est nécessaire de formaliser et puis de former les gens aussi. Alors, c'est en train de discussion, des concertations, des pertes de temps. Donc il y a un point comme ça qui est lié à la complexité lié à la taille de l'entreprise, et ça m'amène à vous dire que la communication, c'est un point essentiel à développer, c'est ce qu'on fait chez Daniel Lu. La première chose sur laquelle on insiste, c'est le sens de l'accueil, de l'entraide. Alors, tout le monde est, je pense, bien dans cette culture. Les nouveaux venus bénéficient de formations internes, sur l'historique déjà de l'entreprise, sur l'ensemble des produits. Il nous importe que les gens se connaissent, qui sache qui fait quoi dans l'entreprise, ils passent dans les différents services, ils passent du temps parfois même dans les services avec lesquels ils n'ont pas du tout de lien direct. Nous, on considère que c'est pas du temps perdu. Donc, c'est une connaissance au contraire approfondie de ce que font les autres, et c'est pour nous un apport pour une meilleure performance dans l'entreprise. Je pense que on a eu un cas concret en 2003-2005 où on a été amené à doubler notre effectif. On est passé de 30 à plus de 60. Et, à cette occasion-là, on a parfaitement réussi à intégrer des nouveaux venus justement grâce à cette culture, parce que les gens étaient immédiatement intégrés dans les services, accueillis comme il se fallait. Et je pense que c'est ce qui a permis cette transition assez rapide de bien se passer. Alors, il y a un autre point, c'est que la communication, elle doit se faire sans rétention d'informations. Donc, la transmission du savoir-faire dans l'entreprise, elle peut pas se faire que par écrit. Si on pouvait tout écrire, ce serait simple, tout le monde saurait ce que c'est tout le monde. Or, justement, elle se fait par l'exemple, en tout cas chez nous, en travaillant avec ceux qui maîtrisent déjà leur métier. Par exemple, chez Daniel Lu, on a un service informatique qui développe des logiciels de dessin pour la réalisation sur mesure de tous nos produits. Là, on s'aperçoit qu'on n'a pas réalisé de notice d'utilisation pour ce logiciel de dessin qui est, enfin, ce serait trop complexe, on peut pas tout lire. Donc, pour acquérir le métier, il faut bien pratiquer avec des dessinateurs, poser des questions, etc. Donc, il faut travailler avec les gens, il faut que les gens n'aient pas peur aussi de perdre forcément leur savoir, mais au contraire soient dans l'esprit de transmission. Et là, on cultive un esprit de transparence. Une petite anecdote, quand je suis entré dans l'entreprise, chaque fois que j'entrais dans le bureau de mon père, il mettait le haut-parleur. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il entrait dans le bureau des autres personnes, il y avait cette tradition, on met le haut-parleur, parce qu'il n'y a pas de secret. Au contraire, c'est une occasion de tout de suite partager une info en direct d'un client, d'une relation. Donc ce côté transparence de l'information est fondamental pour qu'une transmission se passe bien entre les gens. Donc c'est un autre avis, ce qui permet une bonne communication du savoir dans l'entreprise. En tout cas, cette culture mérite d'être poursuivie. Alors, un autre point, toujours pour faire vivre et faire de l'entreprise un lieu de transmission, à mon avis, c'est, en tout cas, ce que j'ai vécu chez Danielu, c'est le cadre de travail. Danielu, c'est un lieu où il fait bon vivre. Donc, chez Danielu, on accorde, comme au collège supérieur, une importance particulière au cadre de travail. La lumière, la beauté de l'architecture, la communication et la transparence entre les bureaux et les ateliers. Donc la construction n'a pas qu'un rôle fonctionnel, l'entreprise doit être un lieu où on a plaisir à vivre, et de notre point de vue, le rôle de l'architecture est fondamental. Donc on fait particulièrement attention au cadre de vie, et c'est aussi le reflet de l'attention qu'on veut porter à nos produits. Donc notre pari, c'est que plus le cadre de travail est bien pensé, agréable, propre, plus le personnel fera son travail avec soin, à l'image de l'environnement dans lequel ils travaillent. Et puis le dernier point, enfin je pourrais en citer sans doute beaucoup d'autres, mais j'ai voulu m'inviter parce que j'ai aussi un collègue qui doit intervenir. C'est savoir créer un esprit de famille. Ça, c'est aussi une des forces de l'entreprise. Je pense que si l'entreprise n'est pas toujours familiale, en tout cas, il est intéressant d'y créer un esprit de famille. C'est ce qu'on essaie de faire chez Danielu. On essaie de le vivre autour d'un certain nombre d'événements qui nous permettent de nous rapprocher, de renforcer notre appartenance à une équipe. Donc c'est des éléments qui nous permettent de nous rencontrer dans un autre contexte. Alors on fait Mardi Gras, tout le monde vient déguisé Mardi Gras, donc là je vous garantis la bonne humeur. À Batimat, alors ça c'est un point important aussi, c'est tous les deux ans, c'est un salon international du bâtiment. Et là, tout le personnel de l'entreprise, même ceux qui sont pas amenés à vendre les produits, sont invités sur le stand pour découvrir des nouveaux produits, on les accueille, il y a une atmosphère de convivialité. Alors, on pourrait penser que c'est une journée perdue, parce que c'est quand même, le nombre de salariés, il faut le nombre de journées, mais bon, c'est pour nous, ça compte pour la cohésion du groupe. Et puis, on fait des barbecues d'été ou des repas de fin d'année, on les utilise aussi comme occasion de parler tous ensemble de l'entreprise, de faire passer notre vision et l'esprit justement que je vous ai un petit peu décrit sommairement, mais dans lequel on souhaite travailler et qui à notre avis conditionne notre développement. Anecdotiquement, je vous signale aussi qu'on organise des événements culturels, comme par exemple récemment on a organisé un concert de guitare par un virtuose Eric Francerie. Il est de la région, en tout cas je vous invite fortement à aller le voir jouer. Et puis donc c'est des événements qui nous permettent de donner des exemples surtout avec la culture de qualité, du goût de la qualité, du goût de l'excellence au travail, parce que c'est de très bons niveaux. Donc voilà quelques pistes pour parler de comment faire de l'entreprise un lieu de transmission. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter plus avant, et je vais laisser la parole à Jérôme Barnier pour sa présentation. Merci.
Bon, c'était pas évident de préparer une présentation sur la transmission dans le cadre des organisations, dans le cadre des entreprises. Puis ça a été rendu encore plus difficile parce que quand j'ai entendu Pierre parler de la transmission, ça paraît tellement évident, tellement naturel que la transmission, c'est un des leviers de l'efficacité, du bien-être des collaborateurs, que je me suis dit mais je vais pas être capable d'exprimer le moindre esprit critique. Donc même en présent en préparation de cette réunion, moi qui suis tombé dans la transmission il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé donc dans le conseil RH il y a 20 ans, et puis même avant j'étais manager opérationnel, et dans les deux entreprises dans lesquelles j'étais, une française et une internationale, sont des entreprises qui placent la transmission et la formation à un très haut niveau dans leur organisation. C'était McDonald's puis la Croix-Centrée. Et donc très clairement je me suis dit mais comment je vais pouvoir parler de la transmission, c'est tellement évident, je vais enchaîner les banalités. Alors je me suis regroupé et puis je me suis dit en fait regarde un petit peu ce que vivent les entreprises avec lesquelles tu bosses au quotidien. Alors comme le disait Jean-Noël, je suis directeur du consulting de Cross Knowledge, qui est le leader européen et le deuxième mondial de la formation à distance, donc le e-learning. Et puis j'ai fondé Business Wizard, qui intervient sur des entreprises significativement plus petites, parce que j'accompagne des startups et des PME, alors que Cross Knowledge bosse avec 80% du CAC 40. Et quand je regardais mes clients, quand je regardais ces entreprises, je me disais, quels sont parmi ou dans ces entreprises les dirigeants qui inscrivent la transmission dans leur business plan? Et en fait, quasiment aucun. Alors, en fait, c'est pas vrai, non. Les coachs, les formateurs, et puis l'industrie automobile, parce que transmission, pour eux, c'est un truc important. Mais sinon, globalement, il y avait personne, en fait, montait sa boîte en se disant, je vais créer une entreprise et je vais faire de mon entreprise un lieu de transmission. Ça vient après. Mais en tout cas, la vocation numéro un de l'entreprise, quand on la crée, au départ, c'est pas de transmettre un savoir-faire, pas nécessairement en tout cas. Et c'est vrai, quand on revient même... la période de crise actuelle, la période qu'on traverse, nous invite à le faire. Quand on revient aux fondamentaux de l'entreprise, sa première vocation, c'est pas de transmettre du savoir-faire, c'est pas de transmettre du bien-être. Tout le monde parle du great place to work, des endroits merveilleux dans lesquels il faut... on est content de venir bosser le matin, etc., de partager un projet ensemble, de partager des valeurs. En fait, force est de constater que il y a probablement des choses qui ont fait qu'on en est arrivé là, mais ça n'a pas été la vocation numéro un de l'entreprise. Donc la transmission, finalement, c'est pas aussi évident que ça. Il y a deux raisons pour lesquelles une entreprise peut devenir un lieu de transmission. La première, c'est parce que elle a les pieds sur terre, elle sait de quel côté sa tartine est beurrée, elle sait que si elle fait pas de transmission, elle perd en efficacité. Donc je vais revenir sur ce phénomène d'efficacité qui est tout à fait essentiel. Et puis la seconde, qui est heureusement un peu plus humaniste, elle tient au fait que quand une entreprise est un lieu dans lequel on transmet, c'est aussi beaucoup parce que un dirigeant, une équipe dirigeante ou un groupe de managers ou même un manager a décidé ou sent à cette fibre, à cette sensibilité et se dit qu'effectivement cette générosité, cette volonté de transmettre, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il y a ces deux raisons. D'abord une question d'efficacité et puis ensuite une question de sensibilité. Alors, je vais faire un peu le pivert là, et je vais partager avec vous quelques éléments. D'abord, sur les éléments qui relèvent de l'efficacité, Harris Interactive a mené une enquête auprès de 13 000 salariés, c'est ça, 23 000 salariés, tout secteur d'activité, toute entreprise, toute taille d'entreprise, aux États-Unis et en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, en 2008. 23 000 salariés à qui ils ont posé un certain nombre de questions. Pour faire les choses simplement, moi j'aime bien compter sur les doigts, et ils ont posé un certain nombre de questions. Imaginons qu'il y a un panel de 10 qui soit parfaitement représentatif de ces 23 000. La première question qu'ils ont posée, c'est combien d'entre vous connaissent et comprennent la stratégie de leur entreprise ? Normalement tout le monde, enfin c'est une sorte de prérequis dans une boîte, de comprendre où on va pour pouvoir y aller. En fait, quand on pose cette question, il n'y en a que 4 qui répondent « Oui, nous, on comprend et on connaît la stratégie de l'entreprise. » Donc, on a perdu 60% du personnel en route. C'est préoccupant en termes d'efficacité, en termes d'exécution stratégique. On pose une deuxième question, parce que le cauchemar s'arrête pas là. Et la seconde question, c'est « Combien parmi vous, donc parmi les 4 qui restent, combien parmi vous font le lien entre la stratégie de l'entreprise et leur mission au quotidien ?» Troisième question, combien parmi ces deux qui restent, on se tutoie quasiment à ce niveau-là, combien parmi vous se sentent armés en termes d'outils, en termes de méthodologie et en termes de compétences pour pouvoir réaliser leur mission? Et là, il reste un bonhomme. On est 24 dans la salle, ça veut dire qu'il y a deux personnes, si on est une entreprise, qui ont compris la stratégie, qui ont pigé que ce qu'ils faisaient au quotidien, ça sert la stratégie, et qui considèrent qu'ils ont les compétences et les outils pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc on le voit, en termes d'efficacité, la question elle arrête de se poser tout de suite. Évidemment, la transmission, c'est essentiel. Transmission de la stratégie, transmission du projet, transmission d'informations, et puis sur cette dernière question, la transmission de la compétence. Donc j'ai évoqué plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on va transmettre dans l'entreprise ? La première des choses qu'on va transmettre dans l'entreprise, c'est une vision. La seconde, ce sont des valeurs. Et la troisième, ce sont des savoir-faire. On va appeler ça ou des compétences. En fait, derrière ces termes se cachent tout un tas de choses. Derrière une vision, il y a l'histoire en fait de l'entreprise. L'histoire d'abord passée. Donc, quelle est la culture de l'entreprise ? Quelle est sa cosmogonie ? Quels sont ses mythes fondateurs ? Qui sont ses héros, en fait, ces gens qu'on fait l'entreprise ? Et quand Pierre parle de son père, quand il parle des gens qu'on fait l'entreprise, quand il parle de ce qui s'est passé, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et transmettre ces éléments-là pour que les collaborateurs comprennent, décodent ce qu'est l'environnement dans lequel il évolue, c'est tout à fait essentiel. Particulièrement, la génération Y qui arrive en entreprise aujourd'hui, qui a pas nécessairement tous les codes pour pouvoir piger comment ça se passe en entreprise, qui zappe, qui est très très spontané, qui comprend pas pourquoi on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, etc. Donc, comprendre une histoire d'entreprise, comprendre ce qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc là, on parle de l'histoire passée, et bien entendu, il faut parler aussi de l'histoire future. Donc la vision, c'est aussi le projet de l'entreprise. Et c'est fondamental aujourd'hui de transmettre cette connaissance du projet de l'entreprise, particulièrement dans un monde qui est un monde en crise, dans lequel il y a des chaos économiques qui sont de nature à faire perdre leur repère à tout le monde. Le projet d'entreprise, justement, a pour vocation à transcender, en fait, ces chaos économiques, ce court terme, et à mettre les gens en position de regarder plus loin. Donc, où veut-on aller ? Quand vous écoutez les gens qui sont chez Google ou quand vous écoutez les gens qui sont dans les grandes boîtes, globalement, ils voient où on veut aller. Et même si on leur met la pression sur la fin du trimestre, même si on les manage sur des objectifs de très court terme, il y a quand même quelque chose qui donne du sens et qui est de nature à attirer les collaborateurs et à les fidéliser. Donc, cette transmission, elle est essentielle. Où va-t-on ? Pourquoi est-ce qu'on bosse pour cette entreprise ? Est-ce que je viens simplement pour gagner de l'argent ? Dans ce cas-là, j'ai un contrat, il y a cette relation contractuelle qu'évoquait Pierre. Est-ce que je viens juste pour bosser, juste pour gagner de l'argent ? Ou est-ce que je m'investis un peu plus ? Est-ce que je comprends quel est le projet ? Est-ce que j'accepte qu'il y ait une relation émotionnelle à l'entreprise ? Donc la transmission du projet de l'entreprise, la transmission de la vision, est quelque chose de tout à fait essentiel pour l'efficacité de l'entreprise. Si vous rajoutez à ça le fait qu'elle doit être en parfaite cohérence avec la stratégie, donc là je parle plus de où veut-on aller, quasiment on peut exprimer cette phrase sans donner de date. Sur Google, leur vision d'entreprise, c'est de rendre le monde meilleur pour les gens qui utilisent Internet. Ouais, c'est génial. Ils sont pas donnés de date, il n'y a pas un métrique derrière ça, il n'y a pas un indicateur de succès, mais tous les gens qui vont chez Google, ils sont persuadés qu'ils participent à la création d'un monde meilleur. Beaucoup d'entreprises comme ça. Après, il y a des locaux, il y a tout un tas de choses dont on pourrait parler. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais cette transmission de la vision, partager une vision, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est probablement aussi quelque chose de qui est rendu très difficile au-delà de la crise, par le fait que dès qu'on commence à grandir, dès qu'une entreprise n'est plus une entreprise de 2, 3, 4, 5 personnes, entreprise familiale dans laquelle il y a des liens privilégiés, où le comité de direction, ça se fait le dimanche à table, pendant le repas, tous ensemble, là, autour de la table, on discute de « alors qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ?» Dès qu'il commence à y avoir plus de monde, dès qu'il commence à y avoir des relais hiérarchiques, transmettre cette vision, ça devient plus compliqué, ça reste néanmoins une condition de succès, une condition d'efficacité, et une condition aussi de bien-être pour les collaborateurs. Il y a un très bon bouquin. J'ai pas été bon élève. Jean-Noël m'a dit, est-ce qu'il y a des textes que tu voudrais transmettre ou citer ? Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Drive, qui a été traduit en français récemment sous le titre de Drive aussi. Donc bon, voilà. Et c'est la vérité sur ces leviers qui nous motivent. Bon, alors ça a été écrit par Daniel Pink. Pink comme rose, mais il a voulu garder aussi son nom en anglais. Et ce type explique qu'il y a eu, c'est un bouquin absolument génial en plus qui est formidable à lire, plein d'anecdotes formidables. Enfin, ça se lit comme un roman. Qu'est-ce qu'il raconte Daniel Pink ? Il dit le XXe siècle, on a tout processisé, on est dans un monde taylorien dans lequel un individu faisait une tâche à un moment donné, seul, face, enfin c'est un peu l'ergonomie du travail posté, donc voilà, je dois faire ça. Et donc, soit je fais bien, carotte, soit je fais pas bien, bâton. Ça, c'était les deux leviers de la motivation au XXe siècle, modèle taylorien. Vous sortez de ce modèle-là, et dès que vous commencez à ne plus avoir une seule tâche à réaliser, mais que vous avez des combinatoires, et dès que vous ne travaillez plus seul, mais que vous travaillez en interdépendance avec d'autres services, ce qui s'est passé quand toutes les boîtes ont décidé d'arrêter de vendre des produits parce que c'était pas chic, mais qu'elles ont décidé de vendre des services. Donc on vend plus des photocopieurs, on vend des flux de données papier. C'est chic, hein, ça reste des photocopieurs. Dès que vous sortez de ce modèle où je travaille seul sur une tâche et maintenant je travaille des combinatoires avec plein de gens, vous passez dans un modèle schumpeterien, c'est simplement impossible de faire de la carotte et du bâton. Et donc lui postule qu'il y a trois nouveaux leviers de motivation dans l'organisation qui sont en premier lieu le sens. Donc donner du sens, expliquer pourquoi on est là, donc donner cette vision, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. D'ailleurs, on l'entend, la génération Y, elle s'appelle, la génération Y, c'est la Y Generation, parce qu'elle arrête pas de demander pourquoi. Ça, si vous le saviez pas, moi je l'ai appris récemment, je vais les appeler comme ça, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on le ferait comme ça? Expliquez-nous. Donc c'est une génération en quête de sens. La génération qui va arriver après, qu'on appelle la génération 2020, est une génération qui va être encore plus complexe à gérer. Pour une raison très simple, c'est que le phénomène de la génération Y qu'on décrit aujourd'hui, qui est une génération qui arrive et qui paraît, qui fait du zapping, etc., etc., pour l'instant, elle n'a pas vraiment transformé l'entreprise parce qu'elle n'a pas encore atteint les postes de décision. Donc pour l'instant, elle souffre en silence d'être dirigée par des générations X ou des baby boomers, ou même des traditionnalistes qui font un peu de résistance, qui ne font pas jouer encore leur droit à la retraite. Quand la génération 2020 va arriver, c'est la génération Y qui sera au pouvoir. Là, probablement, on aura besoin d'une vision, on aura besoin aussi de décoder pas mal ce qui se passe, et on aura besoin d'être très clair. Ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure sur la transparence va devenir critique. Être capable de créer des environnements dans lesquels l'information circule librement va devenir critique. D'autant que, en plus de ça, on ne saura plus défendre l'information. Ce sera beaucoup plus difficile de défendre les cercles de confidentialité ou de défendre le secret, ou de garder l'information comme étant une source de pouvoir pour les managers. Donc très clairement ici, on a un enjeu majeur sur la transmission de la vision. Je vais aller plus vite sur la transmission des valeurs, parce que c'est quelque chose qui est à la fois passionnant et en même temps un peu casse-gueule. C'est la tarte à la crème, les valeurs. Quand on s'est rendu compte, ou quand plutôt on s'est dit qu'il y allait y avoir une grosse crise sur le marché du travail, et que les baby-boomers allaient partir, et qu'on allait avoir un besoin de recruter, et qu'il y allait avoir une crise, en fait, de l'emploi, qu'on allait avoir un déficit de collaborateurs, on s'est mis à vouloir être extrêmement attractif. Donc l'entreprise qui fait de l'argent, c'est pas bien, c'est pas les valeurs, etc. Et on s'est mis à coller des attributs moraux sur l'entreprise. Maintenant, dans l'entreprise, il faut être courageux. Dans l'entreprise, il faut être intègre. Dans l'entreprise, il faut être passionné. Dans l'entreprise, il faut être... Il y a plein comme ça. Tu vois, il y a une agence de communication qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Welcome, W-E-L-C-O-M, et qui fait un observatoire tous les deux ans des valeurs dans les entreprises, et c'est très amusant. Dès que vous avez un scandale dans l'industrie pharmaceutique, pouf, l'intégrité, pouf, ça remonte, comme ça. Donc, c'est intéressant ce baromètre. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que les valeurs, cette transmission des valeurs, est quelque chose qui a été présidé un peu plus par un effet de mode, ou en tout cas une volonté des entreprises de moraliser, ou en tout cas de se donner une belle image pour attirer les talents, que véritablement, dans beaucoup de cas, quelque chose qui était ressenti et incarné par les managers. Les seules fois d'ailleurs où ça a marché, c'est quand il y avait une véritable exemplarité. C'est Schweitzer qui disait « L'exemplarité, c'est pas le meilleur moyen de diriger les hommes, c'est le seul. » Donc si vous commencez à dire qu'il y a une des valeurs dans votre entreprise, c'est le courage, et que vous prenez pas les décisions courageuses, le truc tombe par terre. Si vous dites qu'il faut être transparent et que vous n'êtes pas transparent, si vous dites etc., etc., on peut toutes se les descendre comme ça.
Donc les valeurs, il y a eu un peu tout. Il y a eu ces grands panneaux avec marqué toutes les valeurs, voilà à quoi nous croyons dans l'entreprise, etc. Très chic. Et puis il y a eu aussi des gens qui à contrario, ont décidé d'incarner ça et qui ont fait des réussites absolument extraordinaires. Quand Steve Jobs disait « Soyez fous, soyez des rêveurs, continuez d'inventer en permanence, remettez les choses en question », c'était pas des valeurs qu'il avait écrites sur un mur, c'était des trucs qui vivaient à l'intérieur. Donc ça, c'est une vraie différence. Transmettre des valeurs, néanmoins, si on enlève le terme de valeur et qu'on se dit que ce sont des principes d'action, si on se dit que c'est l'esprit dans lequel on veut travailler, alors il est, pour un manager ou pour un dirigeant d'entreprise, essentiel de transmettre ses codes, de transmettre ce qu'incarne le dirigeant, la manière dont il veut que son entreprise fonctionne. Et s'il dit qu'il veut qu'elle fonctionne sur la base de la transparence et qu'il est transparent, alors c'est important qu'il l'explique. Qu'il l'explique à ses collaborateurs, mais qu'il l'explique surtout à ses premières lignes, à ses managers, de sorte que eux aussi incarnent la transparence. Donc ça, c'est un deuxième point, un point très très important. Je vous ai cité un seul des trois leviers de motivation qui étaient décrits dans le bouquin de Daniel Pink, dans Drive. C'est le sens. Les deux autres, c'est l'autonomie et la maîtrise. L'autonomie en ce sens que vous transmettez aux collaborateurs, vous transmettez dans l'organisation les moyens à chacun, donc c'est sens, autonomie, maîtrise. Purpose, autonomy, mastery, dans le texte. Et donc, l'autonomie, c'est le fait de transmettre à chacun la capacité à prendre des décisions et à travailler sans avoir besoin en permanence de se référer à un manager, à un référent, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça veut dire que vous offrez par rapport à un objectif qui a été clairement décrit, défini, communiqué, vous offrez de la liberté aux collaborateurs. Ça, c'est un point essentiel, et ça rejoint cette notion de valeur. Et puis enfin, la maîtrise, c'est ce qui va nous amener rapidement à cette notion de savoir-faire, le fait de transmettre à un moment la capacité à un individu de faire son job, de le faire bien, c'est quelque chose de formidable. Et c'est d'ailleurs le fondement du bien-être au travail. On parle des risques psychosociaux, en fait, c'est le côté pile de la pièce quand on parle du bien-être au travail. En fait, c'est un peu la vache et le caribou quand on parle des risques psychosociaux. En France, on parle des risques psychosociaux, c'est la vache, et au Québec, ils parlent du bien-être au travail, c'est le caribou. Donc vous voyez, on parle de la même chose, mais on en parle d'une manière différente. Si je reviens à cette transmission du savoir-faire, plus vous donnez à un collaborateur la capacité à faire son travail d'une manière efficace, plus vous lui enlevez de stress. En fait, qu'est-ce qui est atrocement stressant dans l'entreprise? C'est de pas savoir si on va y arriver, c'est de pas savoir faire, c'est de rechercher l'information, c'est de pas pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est de plus en plus difficile. Alors on se dit que la formation professionnelle, ça existe depuis 1971, donc 40 ans en France, puis on formait avant, heureusement. Il y a des universités d'entreprise avant, en France. Alors, je parle de la formation professionnelle continue. Je parle pas, évidemment, de la formation initiale. Mais on se dit que c'est quelque chose qu'on maîtrise mieux et que si on s'attache pas uniquement aux visions et aux valeurs, au moins sur les trois éléments du triptyque, il y en a un qu'on maîtrise parfaitement. Et c'est pas aussi simple que ça, parce que le monde. Alors on est dans un monde dans lequel on dit que les travailleurs sont devenus les travailleurs du savoir. Pierre évoquait tout à l'heure les dessinateurs avec ces logiciels de dessin industriel qui sont devenus particulièrement complexes. Et là, on voit bien effectivement que on peut plus simplement apprendre en lisant un manuel. Une étude qui a été menée par Robert Kelly de la Carnegie Mellon University entre 1986 et 2006, il pose la question suivante. Il dit: quelle est la part des connaissances nécessaires à l'exercice de votre métier, de votre fonction que vous stockez dans votre cerveau? En 1986, quand il pose la question, la réponse c'est 75%. Il repose la même question 10 ans plus tard, alors qu'on s'est massivement équipé en ordinateur dans les entreprises, et on est en dessous de 20%. Et quand il repose la question après l'avènement d'Internet, soit en 2006, on est entre 5 et 8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mémoriser, stocker l'information, n'est plus un élément critique. Ou n'est plus discriminant pour pouvoir être performant. C'est tragique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de 5% des informations pour faire votre job,
vous en avez besoin dans votre tête. Tout le reste, il va falloir aller chercher à l'extérieur. Ça change radicalement la relation au savoir. Ça veut dire que, et on en parlait avec Jean-Noël en préparation, quasiment aujourd'hui, pour faire un bon économiste, il faut avoir fait de la philo. Parce que la philo servira toujours dans la relation à l'autre, alors que l'économie va changer et les compétences vont être frappées de caducité dans certains métiers. Je parle plus de l'économie là, mais dans des métiers techniques, dans des métiers technologiques, elle est frappée de caducité dans les 18 mois, dans les 24 mois. Donc ça veut dire que notre relation au savoir est devenue radicalement différente. La transmission donc s'impose vraiment comme une des problématiques qu'on va avoir à relever. Enfin, en tout cas, oui, à adresser. Ça veut dire qu'il va falloir transmettre non seulement des connaissances, de l'information, des compétences, mais aussi de nouvelles compétences. Des compétences qui permettent, qu'on pourrait quasiment appeler des compétences métacognitives, qui permettraient de non plus avoir l'information dans sa tête, mais de trouver l'information. D'être capable de filtrer, d'analyser l'information, donc de faire preuve de sens critique, d'être capable d'être logique et de regarder ce que sont les connexions entre les différentes informations qui sont mises à ma disposition. Évidemment, d'avoir un très bon relationnel, parce que je peux pas travailler seul, je peux pas traiter cette information seul. Et puis ensuite, de travailler mon réseau, d'être capable de lire un peu la carte des expertises au sein de mon organisation. Et puis, là, on parle pas des grandes boîtes multinationales. Ce que Pierre évoque quand il dit, quand il parle de ses dessinateurs ou quand il parle de ses collaborateurs qui apprennent sur le tas, qui apprennent par le métier, eh bien, c'est quelque chose où on le voit ici. Je vais acquérir ces nouvelles connaissances, ces compétences, en utilisant des compétences qui sont encore, entre guillemets, plus nouvelles, mais en tout cas le relationnel, la résolution de problèmes, la créativité, etc., etc. Donc on le voit, c'est un nouveau challenge qui se propose à nous. Il y a un modèle à ce titre qui décrit la manière dont les adultes apprennent. C'est un modèle qui s'appelle le modèle 70-20-10. Je peux écrire là ou ça va plus jamais s'effacer parce qu'il faudrait mettre du papier. D'accord. J'ai assez de câbles, c'est trop bloqué comme ça. Le modèle 70-20-10, alors on parle de ce modèle et on dit que c'est un modèle très nouveau, très innovant, qui bouleverse les codes de la formation, de l'apprentissage, etc. C'est un modèle en fait qui a toujours existé. Il a été formalisé en 1996 par deux chercheurs américains qui s'appellent Lombardo et Schinger. Il a été ensuite repris d'ailleurs par Eric Kandel, qui est le Nobel de médecine de l'an 2000 et qui a focalisé ses travaux sur l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il décrit ? Tout simplement que on apprend en tant qu'adulte, mais en fait tout le monde apprend de cette manière-là, 10% au travers de la formation structurée. Que ce soit de la formation en classe, de la formation à distance, que ce soit des lectures, etc., etc. 20% au travers des échanges, et notamment des feedbacks, des conseils que peut nous donner, et principalement notre boss, et puis 70%, on l'apprend en pratiquant, on l'apprend par l'expérience. Je vois que ça vous fait sourire, parce que vous êtes de chez une entreprise de conseil, par exemple, non, pas du tout, non. On a cité le nom d'une entreprise tout à l'heure, et je sais que c'est un modèle qui est en place chez eux, qu'ils utilisent. Bon, donc non, pardon. Vous seriez pour autre chose, tant mieux. Donc 70-20-10, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Pierre dit qu'il va falloir faire, entre guillemets, ce qu'on appelait avant le compagnonnage, eh ben on est bien ici dans un modèle où je ne peux pas transmettre simplement en asseyant les gens dans une salle de classe, je ne peux pas transmettre uniquement avec un guide utilisateur, je ne peux pas transmettre simplement par le biais de la formation professionnelle, j'ai besoin que les managers s'impliquent et j'ai besoin que l'environnement de travail devienne un environnement qui favorise l'apprentissage. Donc la transmission, je veux pas être pessimiste non plus, je veux pas décrire un scénario catastrophe, mais je dis que la vision c'est pas facile à transmettre, que les valeurs c'est pas facile à transmettre, je dis aussi que la connaissance, en tout cas ça s'est complexifié, en tout cas c'est un véritable enjeu, cette transmission de compétences pour les organisations aujourd'hui. Je voudrais conclure cette présentation avec deux choses. La première c'est une petite histoire. Ce que vous voyez ici, c'est peut-être pas très lisible, je vais vous lire. Il y a en fait 6 niveaux. On commence par l'environnement, ensuite le second niveau ce sont les comportements, le troisième ce sont les capacités, le quatrième les valeurs et les croyances, le cinquième l'identité, et le sixième la vision. Donc on a déjà parlé de la vision, on a déjà parlé valeurs-croyances, on en a déjà parlé. Et capacité ou compétence, c'est un synonyme dans ce cas-là. Je vais illustrer ça en vous racontant l'histoire d'un type qui se balade dans la campagne, et puis à un moment il voit un gars qui a un marteau, un burin et un gros bout de caillou, et il est en train de taper dessus comme ça. Ça, c'est ce qui se passe. Ça veut dire il est dans la campagne et il voit un type qui est en train de taper sur des cailloux. Il arrive et il lui pose la question, vous faites quoi? Vous voyez bien. Niveau 2. Vous voyez bien, je suis en train de casser des cailloux. Marteau, burin, caillou, casser caillou. Et puis il continue de marcher un peu, il en rencontre un autre qui casse des cailloux, alors un peu échaudé quand même, il n'ose pas lui poser la question, puis le gars lui sourit quand même, bonjour, vous cassez des cailloux? Ouais, absolument, sauf que lui, il est au niveau 3, il est au niveau des capacités. Il dit, en fait, j'utilise une très vieille technique de taille du calcaire pour pouvoir faire des blocs parfaitement réguliers et extrêmement solides pour la construction. Pierre, tu connais, évidemment. Et puis il continue, il se dit, bon, il rencontre un autre qui est encore en train de casser, il dit, mais vous cassez, vous utilisez aussi la méthode de... Oui, oui, absolument, et moi je fais ça parce que bah, ça me permet de gagner de l'argent et ça me permettra d'offrir une éducation pour mes enfants, pour de sorte qu'ils puissent choisir le métier qu'ils ont envie de faire plus tard. Super. Puis il continue, il croise encore un gars, et celui-là lui dit, je suis tailleur de pierre, il est au 5e niveau. Et celui qui est au 6e niveau dit, ben moi je contribue, je participe à l'édification d'une cathédrale, c'est un lieu dans lequel l'homme pourra se rapprocher de Dieu. On voit que la motivation et l'engagement pour le travail n'est pas le même aux différents niveaux logiques ici. Donc, si je n'entretiens avec mes collaborateurs qu'une relation contractuelle et que je mets à leur disposition un environnement dans lequel ils vont avoir des tâches à exécuter, je ne travaille qu'aux deux premiers niveaux. Dès lors que je leur transmets des compétences et que je leur permets de renforcer effectivement cette maîtrise d'un métier, d'en être fier, de savoir pourquoi ils le font et à quoi ils contribuent, alors effectivement la transmission, elle n'est pas bonne que pour l'entreprise, elle est aussi source d'une grande fierté, d'un grand bonheur professionnel pour les collaborateurs. Et ma conclusion, en fait, elle va se focaliser sur un acteur majeur de ce système, ce sont les managers, parce que le dirigeant peut rien faire seul. C'est le manager de proximité qui va faire ça. C'est le manager de proximité qui va s'intéresser à son collaborateur, qui va regarder ce que sont ses croyances, regarder ce que sont ses mobiles professionnels, ses motivations, regarder ce que sont ses contraintes, son ressenti, et qui va travailler avec lui pour avoir non seulement un rôle de manager, donc de pilotage de l'activité, mais aussi de transmission, d'accompagnement dans le développement, dans l'épanouissement professionnel. Donc j'ai commencé en disant que c'est un peu un scénario catastrophe. En tout cas, je vois pas beaucoup de gens qui parlent de la transmission. En fait, je suis un optimiste de proximité, comme vous l'aurez compris. Et si je suis pessimiste parce que je vois qu'effectivement il y a quand même une dictature de la finance et du court terme aujourd'hui dans les organisations, je porte une immense confiance aux managers qui ont cette capacité à comprendre ce que sont la sensibilité de leurs collaborateurs, qui de plus en plus redécouvrent cette nécessité et ce plaisir qu'il y a à la transmission. D'ailleurs, si vous deviez dans vos organisations nommer un manager, ne vous attachez pas nécessairement. Évidemment, intéressez-vous à ce qui a été son parcours, s'il était formé au management, s'il connaît les techniques de management, les techniques de gestion, etc., etc. Mais même s'il n'avait pas ça, un élément, un critère qui doit être absolument discriminant, disqualifiant, c'est est-ce que la personne que vous vous apprêtez à nommer à un poste de management, qui va avoir responsabilité d'équipe, c'est quelqu'un qui aime les gens. Parce que la transmission, elle a pour prérequis cette générosité et cet amour des gens. Voilà.
Merci pour ces deux exposés clairs, vivants et complémentaires, puisque donc on est parti d'une situation concrète d'entreprise familiale pour voir que au fond, même dans les plus grandes entreprises, on peut trouver des considérations proches de celles-ci. Peut-être que Pierre voudrait réagir à tel ou tel propos que Jérôme a.
Alors, j'avais juste deux petites observations que je me suis notées. Effectivement, qualité du manager, essentielle dans le rôle de la transmission, pas forcément à juger toujours d'après ses compétences, son CV, mais sa capacité à faire vivre l'entreprise, finalement. Et moi, j'apprécie beaucoup, effectivement, cette vision-là. Moi, j'avais deux petits exemples. C'est vrai que chez nous, une des qualités de mon père, que j'ai peut-être pas encore tout à fait assimilé, c'est cette capacité justement à savoir rendre les gens autonomes, à savoir leur faire prendre des responsabilités, à leur faire confiance. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est dans la culture de l'entreprise, celui qui réagit par rapport à un projet, celui qui a envie de s'exprimer, voire d'être contre, c'est qu'on lui donne la possibilité de prendre les choses en main. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au CV, effectivement, c'est une question c'est la spontanéité de la personne qui a envie tout à coup de s'exprimer sur un sujet ou d'avancer sur, même si elle n'est pas forcément au départ totalement la personne la plus pertinente, mais c'est celle qui a le plus envie. Et puis j'ai un exemple que je trouve assez frappant dans l'entreprise pour ça, sur ce côté savoir faire confiance. On a notre responsable des ventes qui est donc en charge quand même d'une bonne, je vais pas dire de bêtises, mais d'une bonne trentaine de personnes. Et quand je suis rentré dans l'entreprise, c'était quelqu'un qui était dans l'atelier à faire de la production, à faire de l'emballage, un jeune Tunisien. Et à un moment, s'est posé la question de développer justement les ventes chez Daniel Lu, qui est-ce qui pourrait être motivé, etc. Et ce jeune homme s'est présenté. Et effectivement, c'est pas forcément le profil qu'on recruterait dans des conseils en ressources humaines. Et en fait, à l'époque, donc mon père a choisi de lui donner sa chance. Et aujourd'hui, tout se passe bien. On est plutôt très satisfait de. Ça, c'est typiquement l'exemple, je trouve, de ce qu'on peut obtenir quand on décide de rendre les gens autonomes, de leur donner une part de responsabilité, de leur faire confiance. Les gens peuvent se dépasser complètement par rapport à ce qu'on attend d'eux. C'est quelque chose qui, effectivement, dans une entreprise, participe totalement, je pense, de la transmission. C'est un point que je trouve très important. Le CV, c'est une chose qu'on pourrait analyser par des compétences en ressources humaines, etc. Il faut savoir déceler aussi chez les gens cette envie de prendre les choses en main et puis aussi de cette capacité qu'ils pourront avoir à la transmettre par la suite. Ça, c'était un point. J'ai été très frappé aussi de votre exemple sur l'évolution de la connaissance qu'il faut pour maîtriser un poste, effectivement il faut plus savoir où trouver l'info que de l'avoir en tête. Moi, à ce propos, je remarque une évolution dans l'entreprise entre le moment où je suis rentré et maintenant, qui est assez frappante. C'est effectivement que malgré tout, il y a un savoir-faire qu'il faut transmettre en faisant, en regardant, en écoutant les gens, en s'imprégnant de ce qu'ils font. Mais de plus en plus, quand même, on formalise les choses. Et on a des procédures qui sont quand même stockées. On a la mise en place d'un intranet. Alors là, c'est effectivement tout se passe par Internet maintenant. Donc les choses sont disponibles non pas simplement dans l'entreprise sur du papier, non pas simplement sur le réseau local de l'entreprise, mais virtuellement n'importe où. Par justement ce jeu de l'intranet, se développe également le stockage des informations non plus dans des répertoires. Aujourd'hui, toutes les informations sont stockées dans des sites internet. Aujourd'hui, quand on crée un projet, on crée pas un répertoire, on crée un site internet, ou un site intranet en l'occurrence, avec justement une manière de prendre les choses qui n'est plus simplement de rédiger un document et puis de le faire passer, mais c'est un travail interactif entre des gens qui travaillent sur les mêmes documents, qui travaillent au même moment sur les mêmes données, qui renseignent les choses qui sont immédiatement disponibles pour d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans l'entreprise, les sites wiki pour accéder à la connaissance. Donc on tape un mot et automatiquement, où qu'il soit dans le réseau de l'entreprise, hop, on arrive à avoir les quelques points qu'il faut savoir sur telle information de l'entreprise. Donc ça, effectivement, je remarque cette évolution que je pense que Daniel, on a bien su suivre, parce que on est justement assez à la pointe sur ces technologies de la communication. Et je pense que c'est un des points clés aussi dans une entreprise pour la transmission aujourd'hui, c'est l'excellente maîtrise de ces outils de télécommunication, enfin de nouvelles technologies de l'information, on va dire. Ça, c'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré chez Daniel Lou depuis très longtemps. Donc, voilà, tout ce qui est transmission de l'information se passe beaucoup par là, effectivement. C'est un point clé, quoi.